3. Pas même 100 heures après sa remise en liberté, enfin semi-liberté, Maurice était rentré au vieil immeuble d'appartement où il créchait pour trouver son appé assis sur le perron en train de fumer une cigarette. Le tas de ciment et de parpaings ornés de graffitis, rebaptisé le manoir aux barges par ses habitants, était un vivier subventionné par l'État d'anciens toxicos, alcoolos et tolards comme lui. Maurice avait vu son appel l'après-midi même et était renvoyé après quelques questions de routine et un « à la semaine prochaine ». C'était pas la semaine prochaine, c'était même pas le lendemain, mais il était là. Ellis MacFarland était un imposant monsieur noir avec un énorme bide et un crâne chauve et luisant. Ce soir, il portait un jean grand comme un parachute et un t-shirt Harley Davidson taille XXL. Il avait un vieux sac à dos usé posé à côté de lui.
« Yo, Maury !» dit-il,
puis il tapota le ciment sur lequel reposait son gigantesque arrière-train.
« Asseyez-vous. »«
Bonjour, monsieur MacFarland. » Maury s'assit, le cœur cognant si fort que c'en était douloureux. « Pitié, juste un comportement suspect, » pensa-t-il, même s'il voyait pas ce qu'il avait bien pu faire de suspect. « Pitié, me renvoyez pas au trou, pas si près du but. »
« Vous étiez où, mon ami ? Vous finissez le boulot à 4 heures ? Il est 6 heures passées. »
« Je me suis arrêté prendre un sandwich. Ou à pick-up. Je pouvais pas croire que le cup était toujours là, mais si, il y est toujours. »
Bafouillant.
Incapable de s'arrêter même s'il savait que c'était exactement ce que faisaient les gens défoncés à quelque chose.
« Et ça vous a pris 2 heures de manger un sandwich ? Le salopard devait faire 1 mètre de long. »
« Non, il était normal. Jambon fromage. J'ai mangé sur un banc à Government Square. Et puis j'ai donné les croûtes aux pigeons. C'est ce qu'on faisait avec un copain à l'époque. Et puis j'ai... Vous savez, j'ai pas vu le temps passer. »
C'était la vérité. Mais ça semblait tellement bidon comme excuse. « Vous preniez l'air, quoi, » suggéra MacFarland. « Vous profitiez de votre liberté. C'est à peu près l'idée. »
« Oui. »
« Eh ben, vous savez quoi ? Moi, je crois qu'on va devoir monter. Et puis, je crois que vous allez devoir pisser un coup, juste pour être sûr que vous profitiez pas un peu trop de votre liberté. »
Il tapota son sac à dos.
« J'ai mon petit kit là-dedans. Si l'urine vire pas au bleu, je vous lâcherai la grappe et je vous laisserai continuer votre soirée pépère. Vous n'y voyez aucune objection, n'est-ce pas ?»«
Aucune. » Maurice éprouvait un soulagement quasi étourdissant.
Et puis je regarderai pendant que vous ferez votre petit pipi dans le petit gobelet en plastique. Aucune objection à ça non plus.
Non.
Maurice avait passé 35 ans de sa vie à pisser devant des gens. Il était habitué.
Non, monsieur MacFarland. Pas de problème. D'une pichenette, MacFarland balança son mégot dans le caniveau, attrapa son sac et se leva.
Bon, dans ce cas, je crois qu'on va oublier le test.
Maurice était bouche bée.
MacFarland sourit. C'est bon, Maury, pour l'instant en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on dit ?
Pendant un instant, Maurice ne trouva rien à dire, puis ça lui vint à l'esprit. Merci, monsieur MacFarland.
MacFarland ébouriffa les cheveux de son protégé, un homme de 20 ans son aîné, et dit : Bon garçon, à la semaine prochaine.
Plus tard, dans sa chambre, Maurice se repassa ce bon garçon indulgent et paternaliste en regardant le mobilier spartiate et bon marché, ainsi que les quelques livres qu'il avait eu le droit de rapporter du purgatoire, et en écoutant les bruits d'animalerie, cris, hoquets, coups, de ses co-résidents. Il se demanda si MacFarland avait idée à quel point Maurice le détestait. Et il se dit que oui. Bon garçon. J'aurai bientôt 60 ans, mais je suis le bon garçon d'Ellis MacFarland. Il resta allongé sur son lit un moment, puis se leva et se mit à faire les 100 pas, repensant au conseil que lui avait donné Duck. « Si t'as dans l'idée de faire un truc qui pourrait te classer dans les comportements suspects, ils ont cette catégorie, attends après que ton appé soit passé te rendre une petite visite surprise. Après, tu pourras être peinard. » Maurice parvint à une décision et enfila son blouson en jean. Il descendit au rez-de-chaussée dans l'ascenseur en pestant l'urine, longea 2 blocs jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche et attendit qu'un bus affichant la destination Northfield se pointe. Son cœur battait à nouveau à grands coups, et il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer MacFarland quelque part par là. MacFarland pensant
Ah ah, maintenant que je l'ai endormi, je vais repasser un coup, voir ce que ce lascar mijote vraiment. Peu vraisemblable, évidemment. MacFarlane était sûrement chez lui à l'heure qu'il était, attablé avec sa femme et ses trois gosses tous aussi obèses que lui. Mais quand même, Maurice ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer. Et s'il repasse pour me demander où j'étais? Je lui dirais que j'étais retourné voir mon ancienne maison, c'est tout. Pas de taverne et de bar à nichons dans ce coin-là. Juste quelques supérettes, une centaine de logements datant d'après la guerre de Corée et des rues au nom d'arbres. Rien qu'une vieille banlieue dans cette partie de Northfield. Et un bout de forêt abandonné de la taille d'un pâté de maison, pris dans les mailles d'un interminable procès dickensien. Il descendit à Garner Street, pas loin de la bibliothèque où il avait passé tant d'heures quand il était môme. Cette bibli avait été son refuge. Parce que les grands qu'auraient eu envie de te casser la figure, l'évitaient comme Superman évite la kryptonite. Il traversa 9 blocs jusqu'à Sycamore, puis alla réellement faire un tour du côté de son ancienne maison. Elle avait toujours l'air aussi délabrée, comme toutes les maisons du quartier, mais la pelouse avait été tondue et la peinture semblait plutôt récente. Il regarda le garage où il avait rangé la Biscayne 36 ans auparavant, loin du regard indiscret de Madame Muller. Il se souvenait avoir doublé la malle d'occasion avec du plastique pour que les carnets ne prennent pas l'eau. Une très bonne idée, vu le temps qu'ils y avaient passé. La lumière était allumée au numéro 23. Ceux qui habitaient là, il s'appelait Saubers, d'après les recherches Internet qu'il avait faites à la bibliothèque de la prison, étaient à la maison. Il regarda la fenêtre du haut, celle de droite, donnant sur l'allée, et se demanda à qui appartenait son ancienne chambre à présent. Sûrement à un gamin. Et en ces temps de dégénérescence, un gamin qui préférait sans doute jouer sur son téléphone plutôt que de lire un livre. Maurice continua son chemin, tourna au coin de Elm Street et la remonta jusqu'au centre aéré, fermé maintenant depuis 2 ans en raison de coupes budgétaires selon ses recherches Internet également. Guetta les alentours, constata que les trottoirs étaient déserts des deux côtés et se dépêcha de rejoindre le mur de côté du centre. Une fois derrière le bâtiment, il s'élança dans un trottinement laborieux à travers les terrains de basket, défraîchis mais toujours utilisés apparemment, et le terrain de baseball envahi par les herbes folles. La lune était levée, presque pleine, et assez lumineuse pour que son ombre se projette à côté de lui. En face se dressait un enchevêtrement de buissons et d'arbrisseaux chétifs aux branches entremêlées, luttant pour se faire une place. Où était le chemin ? Il pensait être au bon endroit, mais il ne le voyait pas. Il se mit à courir dans un sens, puis dans l'autre, le long de ce qui jadis avait été le champ droit du terrain de baseball, tel un chien sur la trace d'une odeur insaisissable. Son cœur tournait à nouveau à plein régime. Sa bouche sèche avait un goût de cuivre. Se balader dans son ancien quartier était une chose, mais traîner ici, derrière le centre aéré abandonné, en était une autre. C'était clairement un comportement suspect. Il était sur le point de renoncer quand il vit un paquet de chips s'échapper en voletant d'un buisson. Il écarta le buisson et bingo, le chemin était là, même s'il n'était plus que l'ombre de lui-même. C'était logique aux yeux de Maurice. Quelques gamins devaient encore l'emprunter, mais la fréquentation avait dû chuter après la fermeture du centre. Et c'était tant mieux. Même si, se rappela-t-il, le centre était resté ouvert pendant la plupart des années qu'il avait passées à Waynesville. Ça faisait beaucoup de passages à proximité de sa malle enterrée. Il remonta le sentier, progressant lentement, s'immobilisant complètement à chaque fois que la lune disparaissait derrière un nuage et repartant quand elle ressortait. Au bout de 5 minutes, il entendit le petit gloussement du ruisseau. Alors lui aussi était toujours là. Maurice s'avança sur la berge. Le ruisseau coulait à ciel ouvert, et avec la lune juste au-dessus, l'eau scintillait comme de la soie noire. Il repéra sans problème l'arbre sur l'autre rive, celui sous lequel il avait enterré la malle. L'arbre avait poussé en continuant à pencher par-dessus le ruisseau. Maurice voyait quelques racines noueuses saillir à son pied avant de replonger dans la terre. Mais sinon, rien ne semblait avoir bougé. Maurice traversa le ruisseau comme autrefois, passant de pierre en pierre et mouillant à peine ses chaussures. Il regarda une fois autour de lui et s'agenouilla sous l'arbre. Il savait qu'il était seul. S'il y avait eu quelqu'un d'autre dans le secteur, il l'aurait entendu. Mais le coup d'œil furtif était un réflexe de prisonnier. Il entendit son souffle rauque racler dans sa gorge, tandis qu'il arrachait l'herbe d'une main et se retenait à une racine de l'autre. Il dégagea un petit cercle de terre et se mit à creuser, rejetant sur le côté cailloux et pierres lorsqu'il en déterrait. Il était enfoncé presque jusqu'au coude quand ses doigts touchèrent quelque chose de dur et lisse. Il reposa son front brûlant contre l'épaule noueuse d'une racine protubérante et ferma les yeux. Toujours là. Sa malle était toujours là. Merci, mon Dieu. Ça suffisait. Du moins pour le moment. C'était le mieux qu'il pouvait faire. Et, oh mon Dieu, quel soulagement! Il reboucha le trou et le recouvrit de feuilles mortes tombées l'automne dernier, qu'il ramassa sur la berge du ruisseau. L'herbe repousserait vite, surtout par un temps doux comme celui-ci, et ça terminerait le boulot. En un temps de plus grande liberté, il aurait continué à remonter le sentier jusqu'à Sycamore Street. L'arrêt de bus était plus près par là. Mais pas aujourd'hui, parce que le jardin sur lequel le sentier débouchait appartenait aux Saubers à présent. Si l'un d'eux l'apercevait et appelait le 911, il serait sûrement de retour à Waynesville dès demain. Peut-être même avec 5 ans de plus à purger que sa sentence initiale. Juste pour lui porter chance. Il fit donc demi-tour jusqu'à Birch Street, vérifia que les trottoirs étaient toujours déserts et marcha jusqu'à l'arrêt de bus de Garner Street. Il avait les jambes en coton et la main avec laquelle il avait creusé était écorchée et douloureuse, mais il se sentait léger comme une plume. Toujours là. Il s'en doutait déjà, mais la confirmation faisait tellement de bien. De retour au manoir aux barges, il lava la terre de ses mains, se déshabilla et se coucha. L'immeuble était plus bruyant que jamais, mais pas aussi bruyant que l'aile de Waynesville, surtout par une nuit comme celle-ci, quand la lune était presque pleine dans le ciel. Maurice sombra presque aussitôt dans le sommeil. Maintenant que la présence de la malle était confirmée, il fallait être prudent. Ce fut sa dernière pensée. Plus prudent que jamais.